France Inter.
Bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on reçoit un acteur et réalisateur majeur du cinéma français, un visage qu'on retrouve aussi bien dans les comédies à succès que dans des films plus sombres. Des Petits Mouchoirs à L'Amour Ouf, du Grand Bain à Goliath, en passant par Ma Vie en l'air, j'adore ce film. Gilles Lellouche incarne depuis plus de 20 ans une certaine intensité du cinéma français, physique, populaire et humaine. Il est à l'affiche du nouveau film de Cédric Jiménez, Chien 51, un polar dystopique et ambitieux, où il retrouve le réalisateur avec qui il avait déjà collaboré sur La French et Bac Nord. On va parler de ce film évidemment, de son rapport au jeu, à la mise en scène et de cette peur qui irrigue de plus en plus le cinéma contemporain, celle que les machines prennent le contrôle. Gilles Lellouche est notre invité pendant une heure à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
On va encore attendre longtemps, les uns.
On les fera un jeu.
Pourquoi pas?
Ni oui, ni un.
Ouais.
Perdu.
Wow.
Le programme ALMA et son inventeur Georges Kessel sont les ennemis du peuple.
On m'a verrouillé avec une flic de la zone 2, il faut que j'enquête avec elle.
Nous allons construire une société meilleure.
Regarde-moi, sale merde!
Plus juste. Plus sûr.
Mais une fois je serai sous les verrous, le gouvernement va classer définitivement l'affaire.
Tout est faux, Malik. Tout est faux.
On vient d'écouter un extrait de la bande-annonce donc de Chien 51, ce nouveau film. Alors c'est la troisième, en fait, quatrième collaboration en réalité avec Cédric Jiménez, mais si ouais. on note souvent Bac Nord et La French, évidemment. Qu'est-ce qui te lie à ce réalisateur?
C'est une rencontre assez inoubliable, en fait, avec un jeune garçon qui, il y a une quinzaine d'années, quand il me présente La French. C'était une époque où j'avais fait pas mal de polars, j'avais un peu envie d'arrêter de ce genre-là, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et quand je l'ai rencontré, qu'il m'a proposé La French avec comme idée de collaboration Jean et moi, j'ai vu un type d'une fougue, d'une énergie et d'une soif de cinéma très rare. En fait, il y avait pas beaucoup d'options. Il y en avait deux. C'était ou c'est le plus grand des mythos, ou c'est un type vraiment, vraiment passionné, ouais, et qui a une espèce de feu sacré. Donc en fait, j'ai décidé de lui faire confiance. Et derrière, c'est construit une amitié, une collaboration artistique, une grande estime qu'on a l'un envers l'autre, et surtout, un amour sincère, je crois, pour le cinéma.
Je sais que t'aimes beaucoup le cinéma américain des années 70.
Ah oui.
Est-ce que des fois vous fantasmez en Scorsese et De Niro? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que t'as envie? Est-ce que c'est ton Scorsese et son De Niro?
Je suis son De Niro de Melun, il est mon Scorsese de Bondy. Ouais.
C'est déjà pas mal. Je l'ai dit, dans ce film-là, Chien 51, c'est une dystopie. On n'est pas complètement dans la science-fiction, mais un peu quand même, en tout cas, dans l'anticipation, ce qui est, on le disait un petit peu en antenne, un genre rare, voire quasi inexploité en France. Je dis quasi parce qu'on va évidemment me donner des contre-exemples, mais globalement, c'est assez rare. Qu'est-ce qui a fait justement que ce scénario-là t'a séduit? Qu'est-ce qui vous a donné aussi envie d'aller sur un sujet qui est finalement presque inexploité en France?
En fait, très sincèrement, mon enthousiasme à l'idée de faire ce genre de cinéma l'a emporté sur toute autre forme de raison, quoi. Okay. C'est que quand Cédric m'a dit qu'il voulait faire un film d'anticipation à Paris... Il m'a dit, voilà, tu vois, je voudrais faire un truc entre Blade Runner, entre Les Fils de l'Homme, un mélange. J'étais déjà...
Ouais, t'étais conquis.
À fond. Il aurait pu... j'avais... Le scénario, c'était presque une formalité, je vais être très honnête avec vous. Hein. Tellement mon amour pour ce genre-là est fort, je ne pensais pas qu'un jour on me proposerait ça en France.
Oui.
Même dans ma carrière. Donc vraiment, c'était une... c'était une opportunité immanquable.
Quand tu dis que tu pensais même pas qu'on te proposerait ça, c'est qu'il y a aussi une particularité dans ta carrière, c'est que finalement, tu joues depuis longtemps, mais tu perces assez tard finalement. Tu deviens une figure connue, reconnue et aujourd'hui installée assez tard. Est-ce qu'il y a aussi ce côté un petit peu finalement, toute ta carrière c'est un peu ça, c'est le côté outsider éternel, même aujourd'hui où d'un point de vue extérieur tu n'es clairement pas un outsider, on a l'impression que toi tu te considères encore comme tel, presque comme un éternel rookie. J'ai un peu ce sentiment-là.
Ouais, mais parce qu'en fait... probablement que je refuse l'idée d'être installé aussi. Hein.
Ouais.
Ça me paralyse plus que ça ne me motive, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Les professionnels de la profession, il y a un truc qui me va pas trop là-dedans. Moi, okay. J'aime bien cette idée, en fait, de... Ouais, possiblement d'outsider, en fait.
Ouais.
De prendre très au sérieux ce que je fais, mais sans moi me prendre au sérieux pour autant. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans ma manière d'être, c'est qu'en fait, je fais un métier très exposé alors que je suis quelqu'un de très discret. Donc il y a une sorte de contradiction là-dedans.
Tu joues un des deux personnages principaux dans le film avec Adèle Exarchopoulos, qui c'est vraiment une forme de binôme. Et je me suis posé la question parce que dans ce film, tu as les cheveux blonds. Moi, je l'ai vu, peut-être que je me trompe, comme une référence à Corbin Dallas, au personnage de Bruce Willis dans le cinquième élément.
Sûr.
Est-ce que c'est le cas ou pas du
Absolument.
Tout
Absolument.
Ah, je suis content. On se posait la question. Je me disais, est-ce que
Absolument.
C'est le cas
Absolument.
Ok, donc
Absolument.
Est-ce que ça veut dire que tu as un peu aussi modelé ton personnage sur des héros de films?
Oui, mais Bruce Willis est une bonne, vraiment une bonne référence, parce qu'en fait, dans le Zem, donc, écrit par Cédric, il y a une espèce de mec comme ça, un peu...
Désabusé,
fatigué, sorte de brouillon d'homme, quoi, une sorte de machine à vivre. Et je me suis souvenu, en fait, justement, des grands rôles de Willis dans les années 80-90, quand il fait les Die Hard et quand il fait les Cinquième Élément, etc., où il a ce côté du bad boy...
Il y croit plus.
Hein,
il y croit plus. Enfin,
il y croit plus, désabusé, mais avec un peu d'humour, un peu de cynisme, un petit pas de côté à chaque fois, qui, moi, adolescent, me plaisait énormément. Donc, je lui ai fait... On va pas dire un hommage, mais un gros clin d'œil, on va dire.
Il y a dans cette période-là aussi, moi, il y a un film que j'aime beaucoup, c'est de Tony Scott, Le Dernier Samaritain.
Exceptionnel, Le Dernier Samaritain.
Il est presque sous-côté, entre guillemets, mais c'est-à-dire qu'on cite beaucoup d'ailleurs, à juste titre, mais Le Dernier Samaritain, un film
génial.
Extraordinaire, écrit par Shane Black, qui est vraiment...
Shane Black, de toute façon, tout ce qu'il fait, c'est vraiment extrêmement drôle.
Tu partages l'affiche avec Adèle, je l'ai dit, que tu as dirigé il y a... pas si longtemps, dans L'Amour Ouf, qui est un film donc, que tu as réalisé, qui a été couronné de succès, on peut le dire. Qu'est-ce que ça t'a fait aussi là de partager l'affiche avec elle? Parce que je vois une interview de toi où tu disais, oui, les gens pensent qu'on est tout le temps ensemble, alors qu'en fait, vous n'avez pas tant collaboré que ça ensemble, mais il y a une forme d'évidence à vous voir.
En fait, la problématique de notre métier, encore plus aujourd'hui, c'est qu'il y a faire des films, mais il y a surtout les vendre.
Ouais.
Donc, dans la promotion, dans l'exercice de promo, quand on fait un film, par exemple, on a fait le film de Jeannery, Je verrai toujours vos visages, où on ne partage pas de scène, on est dans le même film mais on n'a pas de scène ensemble.
Et vous avez fait
les
promos
ensemble.
Ouais.
Quand je fais L'Amour Ouf, je ne joue pas avec elle, je le réalise, mais on fait la promo ensemble. Donc en fait, il y a une espèce d'association qui se fait naturellement dans la tête des gens, alors que là, c'est vraiment la première fois qu'on collabore et qu'on joue tous les deux.
Comment ça a été justement de jouer avec elle?
C'était exceptionnel. C'est toujours un peu lourdingue, les acteurs et qui viennent vendre leur truc en disant c'était génial, l'ambiance était super. L'ambiance n'était pas super parce qu'elle était très, très âpre et très compliquée et très technique pour ce genre de film. C'est pas des films très marrants à faire, c'est des répétitions, c'est des cascades, c'est du monde, c'est... Mais avec elle, j'ai eu la chance d'avoir une partenaire de rêve. C'est la meilleure amie rêvée, Adèle. Elle est d'une franchise sans nom, elle est drôle, elle a un talent incroyable, elle va vite. Enfin, je veux dire, je peux partir au bout du monde avec elle,
Alors, d'un point de vue très extérieur, je vous imagine comme deux comédiens instinctifs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez ça en commun? Ou est-ce que peut-être pas, peut-être que vous préparez beaucoup plus et que vous laissez peu de place à l'improvisation? Mais je vous imagine comme ça tous les deux, assez instinctifs.
Alors, en fait, pour être très honnête avec vous, ça dépend des films. Sur celui-là, on a vraiment beaucoup, beaucoup joué à l'instinct.
Okay.
Déjà parce qu'on n'avait pas beaucoup de... On va dire de... Ces personnages, en fait, il y avait beaucoup d'action, il y avait peu de chair, pour être honnête. Donc on a pas mal improvisé pendant le tournage. Des choses bien, des choses évidemment moins bien. Et Adèle était la meilleure des partenaires pour ça, parce que effectivement, et comme moi, on est très instinctif pour ce genre de film. Sur d'autres films... Adèle, comme moi, on peut travailler des mois avec un coach et approfondir. Ça, en fait, pour être très honnête, ça dépend de la teneur du scénario, de l'implication du personnage.
C'est ça qui donne
texte,
le là, en fait.
Et
comment on se prépare physiquement? Parce qu'on l'a un peu dit, mais il y a vraiment plusieurs scènes d'action dans ce film. Comment on se prépare physiquement pour un film comme ça? Est-ce qu'on se prépare ou pas spécialement?
En fait, on se prépare, il faut être en forme, évidemment. Donc on lève un peu le pied sur les cookies, on se remet à courir gentiment, il faut être entretenu, on va dire.
Ouais.
Après, il y a une part du personnage qu'il faut vivre. C'est-à-dire, le personnage a priori n'est pas un cascadeur, c'est pas un type qui sait nager sous l'eau pendant 30 minutes, c'est pas James Bond, quoi.
Oui.
Donc il y a des trucs qu'il faut laisser aller pour justement ne pas être surentraîné, ne pas être surefficace et vivre vraiment la panique du personnage au moment où il est censé la vivre. Ce que j'ai vraiment expérimenté dans 2-3 scènes du film où je faisais vraiment pas du tout le malin, quoi.
Alors dans le cinéma, on aime les sagas. C'est aussi le cas dans le rap. Et on va s'écouter un morceau aujourd'hui qui est issu d'une saga. Non, on aurait pu. On y reviendra après là-dessus. Mais on va écouter un morceau plus récent, puisque Hawkiss et Many Days viennent de livrer une trilogie de projets. Et c'est sur le morceau Magnum présent sur le dernier opus Triple Crème. Les rôles sont inversés. C'est Hawkiss, le rappeur, qui compose et Many Days qui se remet à rapper.
Petits artistes, on tire depuis un gros ficelle. Là, c'est parti. Je deviens je sais pas qui, mais au moins c'est officiel. Petit rigolo, grand triste et futur apprenti beatmaker avait senti pousser les centristes et les charcutiers traders. Insulte les fakes, ajoute les faits, ajuste les faders. La vie c'est une pute mais elle peut pas trop me parler de ses problèmes, c'est trop bête. Là je peux plus verser une thune mais chala je fais pas de clip ou en fait c'est une pub pour Citroën. Je l'ai su en dressant le shit coupé, ils veulent voir ça j'en blazer. Dans le foot depuis coupé, je m'en fous de l'argent des glazers. La vie c'est facile quand tu crois que tu peux pas débarrasser d'elle. Je trouve y'a trop de nazis mais y'a pas assez de haine. Jamais je foire une balade, excuse tu me parlais, je sens pas la gravité. Juste j'avance dans mon corps et juste j'ai plus de balafre. Bien ou bien, ça va?
Ouais super mais j'ai pas quitté.
Tu fais quoi là? Moi je place pour un pote. Son blast c'est Many Days et c'est un truc de malade.
Magnum, ma moustache de Magnum.
Magnum,
coach là ça sort le Magnum.
Magnum,
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum,
la moustache de Magnum.
Magnum,
coach là ça sort le Magnum.
Magnum,
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum,
j'suis la cinquième étoile de Scolari. J'ai 99 dans Konami. Frappe d'Adriano, Hawkiss Many, on plie comme Ori. Gami tient la rime, gratos. Des gains d'anciens tellement impeccables. Prince des régulars, des ordinaires. Rap comme personne, classe comme Bergkamp à Saint James Park. J'suis Boldy James sur du Portichet. Enfant du vinyle et de la Motown. Dell Honor, ça all eyes on me. J'entends leur zumba lamentable. C'est la mota derrière un cardioïde. Façon puzzle, on t'éparpille. Flingue en silence comme Rowan Atkinson. Verbal kin, base l'artiste. Baloche à l'air, ils ont même pas de kilt. Monde connecté, mais y'a même pas de kit. Y'a pas de Pontiac Firebird. Quand je mets le contact, le Firebird dans mes batteries. Que des panenka mes pénalty.
Magnum,
la moustache de Magnum.
Magnum,
couche là, ça sort le Magnum.
Magnum,
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum,
la moustache de Magnum.
Magnum,
couche là, ça sort le Magnum.
Magnum,
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum.
C'était Hawkiss et Many Days, le morceau Magnum présent sur leur dernier projet, Triple Crème.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Et ce soir, nous sommes avec Gilles Lelouch pour le film Chien 51 de Cédric Jiménez. On va continuer à parler de ce film, bien sûr. Mais avant ça, j'ai un petit quiz pour toi.
Ah, super.
Deux propositions. Tu me dis ce que tu préfères à chaque fois.
Ouais.
Très simple. Comme ça, on parle un peu plus cinéma. Et on commence avec quelque chose vraiment très sur les dialogues, les textes.
Ouais.
Audiard ou Tarantino?
Tarantino.
Ok.
Sans hésitation.
Pourquoi? Sans hésitation.
Parce que
c'est plus ta culture.
Parce que je trouve Audiard. On parle pas de Jacques Audiard. Hein, on est
d'accord. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait.
De Michel.
De Michel, absolument.
Parce que c'est pas ma génération.
Ok.
Ni plus ni moins. Que je trouve que pour moi, c'est un peu trop écrit.
Ouais.
Tarantino, c'est vraiment le cinéma qui m'a. Je me souviens de Tarantino qui prend la Palme d'Or avec Pulp Fiction et c'était. Ouais, c'était une révolution, en fait.
Je crois que c'est Clint Eastwood, le président, à cette année-là, le festival de Cannes.
Absolument.
C'était assez vu comme quelque chose d'assez audacieux.
Exactement.
De donner la palme à Tarantino.
Surtout venant de lui.
Ouais, ouais.
Mais, donc, Tarantino, sans hésiter. Je suis assez fan de Tarantino.
Le meilleur Tarantino pour toi? C'est un grand débat. Il y a plein de réponses possibles, mais...
Ah, le meilleur Tarantino pour moi, bizarrement, parce que c'est celui que je trouve le mieux réalisé, c'est Jackie Brown.
Ah, ok. Mais il est fantastique.
Il est fantastique.
Il est un peu mal, il était mal aimé à une époque, mais
parce qu'il est trop long, parce qu'il est un peu gras, mais la réalisation, la construction, le casse de fin, le machin, le De Niro, incroyable. Il y a quelque chose de très très stylé dans Jackie Brown. Autrement, je dirais Kill Bill.
Très. Polar ou comédie?
Polar ou comédie, ça dépend le genre, parce que polar, ça peut vite tomber dans un truc un peu qui peut me fatiguer. Donc plutôt comédie, on va dire.
Acteur ou réalisateur?
Réalisateur.
Ah ouais, tu prends plus de plaisir?
Ouais, mais alors je vais te dire un truc, c'est que c'est même pas une question de plaisir, c'est une question de... Comment dire, d'acheminement, d'accomplissement.
Est-ce que c'est aussi une manière de te prouver quelque chose, peut-être vraiment de réaliser un film qui soit bien, qui soit aimé en plus par la critique? Il y avait un peu ce truc-là aussi.
Ouais, après, en fait, moi j'aime vraiment toutes les étapes. Et comme je suis quelqu'un de très impatient, parfois mon impatience me joue des tours quand je suis acteur. Parfois,
on attend beaucoup.
Ouais, on attend énormément. Ouais. Et plus je vieillis, plus j'ai du mal à attendre. Parce qu'attendre, c'est perdre son temps aussi. Ouais. Alors que réalisateur, on court après le temps, justement. Et il y a une énergie dingue et on se couche avec son film, on se réveille avec. Je sais pas, il y a quelque chose que je trouve... Je suis hyper vivant quand je réalise un film.
Est-ce que tu disais finalement que tu étais exposé, mais que tu étais plutôt discret dans la vraie vie? Est-ce que c'est pas aussi finalement là où tu te sens le mieux, parce que c'est pas toi qui... Enfin, tu portes le film assis en tant que réalisateur, mais pas à l'écran. Est-ce que c'est peut-être là où tu es plus à l'aise?
Probablement, parce que paradoxalement, c'est moi qui écris mes dialogues, donc c'est mes mots qui sont joués, mais je vois pas ça comme une exposition. Je vois ça comme une... je vois plus ça comme on va dire un prolongement de ce que je faisais quand j'étais ado, c'est-à-dire pas mal de dessins et de peintures. Il y a un truc un peu qui prolonge le côté art plastique, on va dire.
J'avais vu une info comme quoi tu envisageais éventuellement de donner une suite au Grand Bain. C'est possible ça, ou c'était un mot de trop en interview?
Non, je pense que c'est un mot de trop en interview, comme je peux en avoir souvent.
Ok. La French ou Hit?
Hit. Ah, quand même.
Non, parce qu'il y avait une forme de... Il y avait une forme de lien qu'on pouvait imaginer.
Non, mais j'aime énormément la French, et plus je le revois, enfin, je passe pas ma vie à le revoir non plus, mais quand je tombe dessus, que je vois des extraits et tout, je me dis que le film a vraiment une belle gueule, il a de bonne facture, il est costaud, quoi. C'est pas un petit truc. Mais Hit...
Je dis ça parce qu'il y avait une forme de... Il y avait cette scène de rencontre aussi qui pouvait faire écho pour moi. Hit et la fameuse scène de rencontre Pacino et De Niro au diner.
Là, on a la rencontre de monstres sacrés, ce que nous ne sommes pas encore, Jean et moi, je ne crois pas, non.
Ouais, est-ce que c'est Hit, De Niro, Pacino, c'est vraiment les acteurs que tu as le plus regardé? J'ai l'impression que tu les cites souvent, souvent eux qui reviennent.
Ouais. Moi, non, De Niro, pour moi, est le plus grand acteur du monde, haut la main. Voilà. Il y a une période de Niro... qui dure une vingtaine d'années,
c'est trop.
C'est dingue. Tout ce qu'il fait, c'est fou. La filmographie de De Niro, elle est dingue. C'est vraiment l'acteur de composition. Que ce soit à Jingle, que ce soit Voyage au bout de l'enfer, que ce soit La Valse des Pantins, c'est exceptionnel, La Valse des Pantins, ce qu'il fait, c'est dingue. Ouais. Donc il y a une sorte de richesse, de palette. Et pour moi, c'est vraiment l'acteur qui m'a donné envie d'être acteur.
Bon, Gilles Lelouch est avec nous ce soir pour parler de Chien 51. Évidemment, on parle de cinéma, mais dans Chien 51, il y a un lien quelque part avec la musique française. Oui, car il y a notamment Lala Ace au casting.
Ah ouais. C'est moi qu'on nous attrape, elle nous aide dans la scène. But you better show me love, show me. Comment ton back bounce, c'est pas possible.
J'en crois que je vais t'aider. Lala Ace qui est une rappeuse française.
Ouais.
Comment elle était? Moi, j'ai vu le film, j'ai trouvé... Je savais même pas qu'elle était dans le film, je l'ai appris en voyant le film. Très talentueux, j'ai trouvé à l'aise.
Elle est ultra et charismatique. Ouais, elle a un truc qui n'est pas en fait qu'on n'apprend pas, qu'on peut pas singer. Elle a un charisme hallucinant.
Ouais.
Alors elle rentre dans une pièce, les gens la regardent. Il y a un truc qui s'opère.
Ouais, qui s'explique pas vraiment.
Ah non, c'est inexplicable. Un magnétisme hallucinant qui peut même être un tout petit peu impressionnant, elle est impressionnante en fait.
Ouais.
Et alors que c'est la douceur incarnée. Elle est sympa, elle est drôle, elle est très très talentueuse.
Et on l'a dit aussi, alors c'est dans la première scène du film, il y a Thomas Bangalter aussi apparaît dans le film, donc un des membres des Daft Punk. Donc voilà, il y a quand même un lien avec la grande musique française dans ce film. On l'a dit, donc c'est un film qui se passe à Paris. Et c'est vrai qu'il s'est... D'un côté, je pense que le côté cinéma d'action est un genre qui existe en France, mais assez peu exploité, on le disait un petit peu en antenne, de plus en plus présent sur les plateformes, mais rarement à Paris. C'est vrai, alors que c'est une ville qui me semble extrêmement cinématographique. Moi, je me souviens que quand plus jeune, je voyais des films américains où on avait des courses-poursuites à Paris, j'étais content. Je me souviens de La Mémoire dans la peau, par exemple. Il y a tout un moment qui se passe à Marseille, à Paris. Est-ce que c'était... comment c'était justement de mettre un peu, enfin, de filmer Paris, de jouer dans un film d'action dans cette ville?
Mais c'était... Encore une fois, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une sorte un peu de rêve éveillé, quoi, une espèce de rêve de gosse où on voit des déjà les décors, cette espèce de checkpoint comme ça, ces énormes trucs au bord des périphéries, des portes de périphérie de Paris, ou alors ces courses-poursuites sur les quais bloqués pour nous avec des bagnoles futuristes dans tous les sens. Il y a quelque chose qui est vraiment qui est vraiment magique, quoi, en fait. C'est quand le cinéma vraiment devient du cinéma et se regarde en tant que tel, quoi, qu'on n'est pas dans la... On n'est pas dans un truc, on n'est pas dans la normalité, on n'est pas dans le quotidien, on est dans l'extraordinaire. Et ça, c'était assez inoubliable.
Je crois que tu parlais de Blade Runner tout à l'heure comme éventuellement une référence, mais est-ce qu'il n'y a pas Minority Report aussi? Moi, j'ai pensé à Minority Report dans le côté prévision des crimes. Alors, c'est pas exactement la même chose, bien sûr.
Mais il y a ça.
Et j'ai l'impression que c'est un film finalement qui a pas mal imprégné la culture populaire, Minority Report, qui est de 2001.
Je suis absolument d'accord. C'était pour le coup, c'est Laurent Godet, l'auteur du roman, qui, je pense, a été très influencé par
Philippe K. Dick,
par ça. Faut dire que c'est des références en la matière, quoi. C'est très 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 visionnaire pour le coup.
Ouais, complètement. Et justement, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, d'algorithmes, tout ça, ce sont des choses qui sont... À un moment, Louis Garrel dit la phrase, dit bientôt tout le monde aura un... C'est très facile aujourd'hui d'avoir un sosie.
Ouais.
Donc là, il y a aussi toute la question de ce qui est vrai, ce qui est faux, qui sont vraiment des questions extrêmement actuel aujourd'hui.
Ouais.
Le film aborde ça aussi, enfin,
et puis une sorte de ce qui était un geste scénaristique et Cédric n'est pas allé jusqu'au bout. Je trouve ça un peu dommage. Il y avait quelque chose qui était, il y avait comme un personnage qu'on voyait partout. Parce qu'il y a comme une uniformité de visage.
Ouais.
Et moi, la dernière fois, je suis une anecdote, ça n'a rien à voir avec le film, mais quand même, j'étais à Londres et je me suis retrouvé dans un bar, et j'ai tourné la tête et j'ai vu objectivement une douzaine de jeunes filles avec le même visage. C'est-à-dire exactement le même nez, les mêmes pommettes, la même coupe de cheveux, vous voyez, un type physique. Et en fait, on peut se dire que, parce qu'on les voit de plus en plus, il y a une sorte de normes d'esthétique de la beauté qui est celle-là aujourd'hui, qui sera autre chose demain.
Ouais, bien sûr.
Mais avec la chirurgie esthétique, avec ce truc, on efface presque le visage originel, initial, pour avoir une sorte de standard, quoi. C'est assez flippant, en fait.
Et sur la partie les machines, parce qu'en fait, c'est aussi le sujet du film, parce qu'il y a, dans le film, il y a Alma, qui est un système d'intelligence artificielle qui propose des scénarios pour permettre aux policiers de résoudre des crimes, etc. Donc c'est là où ça peut faire penser à Minority Report. Et finalement, c'est extrêmement actuel sur les machines qui prennent le contrôle. Terminator abordait ce sujet il y a 40 ans maintenant. Comment toi, tu te situes par rapport à ça? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que pour toi, on en est encore loin? Finalement, évidemment que c'est une dystopie, évidemment que ce que propose le film, c'est pas l'actualité, mais c'est pas forcément si éloigné que
non,
ça.
Non, mais moi, ça me fait... pour être très honnête avec vous, ça me terrorise, en fait.
Ouais.
Enfin, me terrorise, c'est le mot est un petit peu fort, mais... Je parlais avec un ami qui revenait de Los Angeles qui me disait que là-bas... l'industrie hollywoodienne faisait la moitié de ses films maintenant avec de l'IA. C'est-à-dire qu'on est lentement, gentiment en train de dégager les scénaristes. C'est que le début.
Ouais.
Et donc, en fait, se dire que c'est un outil qu'on maîtrise et tout ici et blablabla. Non, à partir du moment où il va nous faire gagner de l'argent, à partir du moment où il va pouvoir prendre des raccourcis, j'ai bien peur qu'il fasse sauter pas mal de corps de métier, pas mal de gens.
Est-ce que les acteurs peuvent pas disparaître?
Mais bien sûr.
Ouais.
Mais bien sûr. Et puis les doubleurs, les voix. Enfin, je veux dire, c'est assez dramatique. Non, moi, ce qui me... Et puis les décors, tout ce qu'on faisait, tout ce que moi j'aime dans le cinéma, mais là je pars vraiment comme un boomer, mais
c'est une réalité.
C'est
qu'il y a un certain cinéma qui n'existe plus, c'est vrai.
Il y a un truc d'artisanat qui va disparaître au profit d'un truc super. voilà, de toute façon, on voit bien qu'on va vers cette voie-là. Donc, c'est très préoccupant, ouais.
Je me joins au côté boomer, parce qu'il n'y a pas longtemps, et ça va boucler avec ce qu'on disait en début d'émission, j'ai revu Une journée en enfer, donc John McTiernan avec Bruce Willis, Die Hard 3. Et c'est un film, effectivement, qui a extrêmement bien vieilli, je trouve, ce qui n'est pas le cas de tous les films des années 90. Hein. J'ai revu Speed, par exemple, qui, je trouve, a pris un petit coup. Mais voilà, mais Une journée en enfer, et tout est réel. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment qu'il y a des effets spéciaux, mais je veux dire...
Tout est fait en vrai.
Quand un métro déraille, c'est un vrai métro qui déraille. Ouais. Alors qu'il y a des films qui sont plus récents, qui ont déjà très mal vieilli, parce que c'est les effets spéciaux d'une certaine époque. Donc c'est pas être complètement un boomer, je crois, dire ça. C'est juste que c'est une... Il y a un certain cinéma qui existe moins.
Et puis c'est désincarné, en fait. Moi, je regardais, je voyais le Parrain 2 qui était rediffusé là sur Canal, et je voyais le Parrain 2, je me disais, mais l'ambition du film, le nombre de figurants quand le petit Corleone arrive à Manhattan, à New York, et qu'on voit le nombre de figurants, des costumes, le détail, le machin, je me dis, mais aujourd'hui, ça, c'est injouable.
Bien sûr.
Déjà, parce que ce serait trop cher, mais surtout parce qu'en fait, on vous dit, vous allez mettre 15 figurants, puis on va les démultiplier à l'infini. Ouais. Mais ça ne rend pas la même chose, c'est pas la même chair, c'est pas le même rendu.
Tout à fait. Sur une note plus positive, avant tout ça, tu co-réalisais des clips. Et tu as collé notamment quelques clips importants comme That's My People de NTM, qui est un morceau mythique. Sine Soupa Crew, La Foire par Trois, Danny Briand, Ronsard, Pascal Obispo et aussi MC Solar, Paradisiaque. Et je te propose qu'on écoute Paradisiaque d'MC Solar. Paradisiaque de MC Solar.
Viens dans les quartiers voir le paradis. Viens dans les quartiers voir le paradis où les anges touchent le RMI. Ici le scooter est le véhicule et les beepers pullulent. C'est d'un pas léger qu'arrive l'huissier accompagné du serrurier. Les idoles des jeunes sont des pornostars, voire Pablo Escobar. Si les anges ont des ailes, ici les gosses volent. Demande Interpol, ils ont des box et songent à leur jacuzzi. À chacun son paradis. À chacun son paradis. Paradisiaque. Je suis au 7e ciel.
7e ciel.
Ma tour est plus belle que celle de Babel. Je vais à l'école buissonnière. Je gère. Et dans la ville. Ne me parle pas de travail à la chaîne. Je veux pas finir comme Kurt Cobain. Le maire d'île, 12 idées dans le quartier. Et les parents s'en vont voter. Il a des récits propres. Offre le bonheur comme un clip de réciproque. Il lève les bras, se balance pour qu'on vote pour lui. À chacun son paradis. Je joue au golf. Ballesteros c'est mon prof. Depuis le Mont Sinaï, je prêche à des sumo qui rêvent de saut à la perche, à rimer à la rime. Je trime sans prime contre le crime. Un dream clean, poussé par la basse, bim. Je suis pas le boss des boss. Le paradis pour moi est de voir grandir des gosses. Les protéger de la pluie, constate ceci. Claude MC bronze la nuit. Demande à Claudia, j'ai plein de tours de magie pour faire de l'enfer un paradis. À chacun son paradis.
Paradis, quelque chose que tu ne peux pas trouver. Paradis, c'est dans l'esprit de chacun qu'on peut trouver le paradis. Heureusement qu'ils trouvent leur paradis.
À chacun son paradis.
C'était Paradisiaque de MC Solar, qu'un morceau présent sur l'album éponyme sorti en 1997.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et nous sommes avec Gilles Lelouch qui a réalisé le clip de ce morceau. C'était comment à l'époque de réaliser des clips, notamment pour MC Solar?
C'était incroyable parce qu'en fait, moi, j'étais pas du tout prédestiné à faire ça. Ça m'est tombé dessus un peu par hasard. J'avais réalisé un court-métrage avec mon ami d'enfance, Tristan Roway. Et un producteur, des producteurs de clips sont tombés dessus et nous ont proposé de nous produire. Et on s'est retrouvés, alors qu'on avait vraiment, on était vraiment à la rue, on n'avait rien, on avait galéré pour faire ce court-métrage avec deux francs six sous, enfin bref. Et quatre mois après, on était à New York en train de réaliser notre premier clip, enfin c'était fou.
Ouais.
Moi, en tout cas, ce qui était génial, c'est que moi qui suis très très mélomane, j'ai vraiment, j'ai sauté à pieds joints dans cet univers-là avec... avec appétit, quoi. Et petit à petit, on s'est construit, et puis on est arrivé dans une boîte de prod qui est Partisan, Midi Minuit,
oui.
Dans lequel il y avait à l'époque Quentin Dupieux, Michel Gondry, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc c'était un grand kiff, parce que c'était l'époque en plus où le clip était vraiment très, très, très considéré.
Et très puissant, oui.
Très puissant, très regardé, qu'on avait les moyens de faire des choses. Et c'était... ouais, j'ai fait ça pendant 6-7 ans, c'était génial.
Et bien justement, ça me permet, tu me fais une transition parfaite, parce que je voulais parler de quelques réalisateurs qui aussi ont commencé par le clip et sont ensuite allés vers le cinéma. Et tu viens de citer l'un d'entre eux, c'est pas exhaustif, hein, j'en ai pris trois, mais tu as cité Michel Gondry, qui est un des cas les plus fascinants. Donc ouais. Avant Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Soyez Sympa, Rembobiné, il a réalisé certains des clips les plus inventifs des années 90 et 2000, pour Björk notamment, où il mélange stop motion, bricolage artisanal et poésie visuelle. Chez lui, tout semble fait à la main, presque enfantin, mais d'une précision folle, sens du bricolage magique. On le retrouve ensuite dans ses films Les Machines improbables de la science des rêves ou les séquences inversées de Eternal Sunshine. Gondry, c'est un cinéaste du rêve et du geste. Il construit littéralement ses mondes avec du carton, des ciseaux et beaucoup d'imagination. Parmi les clips marquants, impossible de ne pas citer le Mia d'I.A.M. ou encore Around the World des Daft Punk. Classique, hein.
Alors, en plus, c'est la boucle est bouclée, je vais faire son prochain film en tant qu'acteur.
C'est magnifique.
Ouais, exceptionnel.
C'est dans le prochain Michel Gondry.
Ouais, ouais.
Mais quelle vie.
Ouais, c'est trop cool.
C'est trop deux cool. Réalisateurs de clips, finalement, ouais, c'est 90 ouais, qui ouais. Se retrouvent. C'est parfait, ça. Alors, autre, toujours un Français, Romain Gavras, lui, c'est tout l'inverse. Un univers frontal, brutal, ultra stylisé, fils de Costa Gavras. Il a commencé par une autre voie, celle du clip comme laboratoire d'énergie. On lui doit le mythique Stress de Justice, tourné comme une descente urbaine, ou encore Bad Girls de M.I.A., où des voitures driftaient dans le désert saoudien. Gavras filme la tension, la colère, la beauté du chaos. Et quand il passe au cinéma, il garde cette même intensité visuelle dans Notre Jour Viendra, Le Monde est à toi, ou plus récemment, Athéna, pardon, produit par Netflix, où il transpose la rage d'un clip de rap dans un long métrage à la mise en scène virtuose. Un cinéaste du mouvement, de la chorégraphie, de la colère. C'était le cas notamment sur No Church in the Wild en 2012 de Jay-Z, Kanye et Frank Ocean. Et puis entre ces deux extrêmes, il y a Spike Jonze. Lui aussi a commencé dans le clip Sabotage des Beastie Boys, Weapon of Choice de Fatboy Slim avec Christopher Walken qui danse dans un hôtel incroyable, ou Buddy Holly de Weezer, tourné comme un vieil épisode de sitcom. Chez lui, le clip, c'est un terrain de jeu pour tester des idées absurdes, poétiques ou décalées, exactement ce qu'il fera plus tard dans ses films, dans la peau de John Malkovich, Adaptation ou Heure. C'est toujours le même ADN, un humour doux amer, une mise en scène inventive et un rapport très moderne à l'émotion. Spike Jonze a su transformer l'expérimentation visuelle du clip en langage narratif intime. On se doit de mentionner le clip désormais mythique de Praise You pour Fatboy Slim. I have to praise you like I Que à cette époque-là, l'époque donc reine du clip, est-ce qu'il y avait une forme de, on va dire de compétition, mais est-ce que vous regardiez aussi ce que faisaient les autres réalisateurs, si vous les connaissiez, oui. C'est pas encore connu. Je crois que c'est l'autre, si tu veux baisser le casque.
Ah non, je voulais l'augmenter.
Ah pardon.
J'adore m'écouter, j'adore ma voix. Non, il y avait pas une compétition, mais il y avait une sorte de d'émulsion, quoi, d'électricité qui était palpable. Moi, je sais que. Quand je faisais un clip et puis quand je voyais Quentin Dupieux arriver avec les siens, je me disais bon bah lui il fait de l'art et moi je fais vraiment du commerce, quoi. Il y avait tu vois ce que je veux dire, ouais, c'était ouais. Un truc hyper créatif. Il y avait une sorte de, en plus on avait un peu chacun nos créneaux. Il y avait Alex et Martin qui était plutôt dans la French Touch, il y avait Dupieux qui lui faisait des trucs un peu plus barrés, type Sébastien Tellier, etc., et Gondry, Björk et compagnie,
ouais, donc ouais.
Moi, je faisais le rap.
Ouais, beaucoup de rap, toi.
Donc, en fait, il y avait... non, au contraire, il y avait... Moi, j'étais très, très admiratif de la modernité de mes petits camarades, en fait.
Bon, on parlait de musique, on va recommencer à parler de cinéma. Alors, Gilles, je l'ai dit, dans Chien 51, il est aussi question d'un système d'exploitation d'intelligence artificielle, Alma, qui régit beaucoup de choses, en tout cas. Et je propose qu'on élise le meilleur film d'anticipation avec des systèmes d'exploitation. C'est très compliqué comme classement, mais tu vas voir, c'est juste un prétexte pour moi pour donner des films, et tu vas dire lequel tu préfères, et ça nous permet de parler de cinéma. Tu vas très vite comprendre. On commence avec... Donc c'est des films où il est question d'IA, en fait, essentiellement. Donc je te donne deux films, tu me dis lequel tu préfères.
Ouais.
2001, l'Odyssée de l'espace. On commence très fort tout de suite.
Ouais.
Ou iRobot.
Oh, 2001, l'Odyssée de l'espace.
Oui, bah c'était, mais pour les, là, mais... c'était pour les... Je voulais l'évacuer.
C'est un échauffement.
Est-ce que, mais est-ce que c'est un film que tu as beaucoup vu, ce film de Kubrick, ou est-ce que c'est fait partie de ton ADN?
Oui, je l'ai beaucoup vu. Bah, notamment à cette époque où je réalisais des clips, parce qu'il y avait quand même une esthétique qui était vraiment... en plus, dans les années 90, c'est revenu très très à la mode, l'esthétique de 2001.
Oui, ouais, c'est vrai.
Dans les clips, etc., dans la pop culture. Donc, ça a été un film... oui, c'est un film... je le regarde pas tous les deux jours.
Bah, il est long en plus, hein, et exigeant.
Voilà. Ouais, contrairement à Shining, par exemple,
oui,
que je peux voir et voir.
Ou Barry Lyndon. Barry Lyndon, moi, je peux le voir.
Absolument. Ouais. Je l'aime, mais c'est pas mon film de chevet, quoi.
2001 ou Terminator, premier du nom.
Terminator.
Alors pourquoi ?
C'est un chef-d'œuvre absolu. Déjà, c'est un film parfait.
Le premier. Hein,
le premier, bien sûr. Pour moi, le premier. Il y en a qu'un pour moi, de toute façon.
T'aimes pas le 2 ?
Non, pas tellement.
Ah ouais, ok, non. Parce que pour moi c'est du
oui, beau divertissement. Mais on bascule de l'autre côté. Ouais. Le 1 est terrifiant.
C'est vrai.
C'est un film d'horreur. Le deuxième est un film populaire. On est rentré dans un truc plus Spielbergien.
Et c'est presque un remake du premier, mais en plus...
En plus nounours.
Ouais.
Et puis alors, le côté gentil Terminator, méchant Terminator, voilà, on m'a perdu.
Okay.
Moi ce que j'adore, c'est le cauchemar de la machine qui te suit, qui ne te lâche pas, quoi. Et c'est un truc que je trouve effrayant. Et c'est un film que j'ai été voir en salle, pour vous dire... mon grand âge, et que j'adore encore, que je trouve vraiment fait avec peu de moyens et tellement pertinent, tellement balèze.
Donc ça va être dur de déloger Terminator, là.
Ça va être très dur.
Je comprends. Terminator ou Heure de Spike Jonze ? On vient de parler de Spike Jonze, qui est un très beau film, différent, rien à voir, évidemment.
C'est un très beau film, mais Heure, je le regarde une fois, Terminator, je peux le regarder en boucle.
Terminator ou Matrix ?
Terminator. Matrix, je trouve, beaucoup vieilli.
Ok.
Je trouve que ses effets sont un peu... Alors au début, quand je l'ai vu, j'étais... Je trouvais que c'était une révolution, et c'était une révolution.
Ouais, enfin, vraiment.
C'était absolument dingue ce qu'ils ont fait.
Complètement. Ouais.
Mais dingue. En fait, c'était fou d'avoir créé un univers. Je pensais pas, en fait, il y a quand même des marqueurs, genre Star Wars et compagnie, de recréer un monde comme ça. Ça a été les premiers à recréer un monde de toutes pièces, un truc qu'on n'avait jamais vu, qu'on ne reverra jamais. C'était quand même une révolution, mais c'est un tout petit peu trop geek pour moi. Je préfère Terminator.
Terminator ou Minority Report ?
Terminator. Minority Report, qui est un immense film. Y a quelque chose de... C'est la période de Spielberg qui m'intéresse un peu le moins.
Ok. Il fait la guerre des mondes aussi un peu.
Ouais, il y a un truc que je trouve un peu... Je suis un fan absolu de Spielberg, qui pour moi est le meilleur metteur en scène du monde.
Ah, pourtant c'est le meilleur metteur en scène.
Ah ouais, sans comparaison.
Devant Scorsese, devant...
Ouais, ouais.
Ok.
Ouais, bah quand on voit le nombre de films différents qu'il a
c'est
fait,
vrai.
Ah, la manière dont il le fait, c'est juste exceptionnel.
Ouais, ouais.
En fait, c'est très... Scorsese, c'est... J'adore parce que ça... Ça frappe, quoi. Il y a un truc qui frime, quoi. C'est du cinéma qui frime.
On en prend plein la gueule quand on regarde un
Scorsese. J'adore, hein. Moi, je trouve que le cinéma, c'est super quand ça frime aussi.
Ouais.
Ce qui n'est pas exactement le cas du cinéma français en règle générale. Mais en tout cas, Spielberg, si on regarde la façon dont il découpe ses films, les plans, etc., c'est absolument fou. Le mec est né avec une caméra dans les yeux. Enfin, c'est dingue.
Ton Spielberg favori ? Est-ce que tu en as un ?
Mon Spielberg favori... Il y en a pas mal. Hein.
Ah oui, parce que ça va dans plein de directions différentes.
Ah oui, il y en a vraiment pas mal. Le dernier qu'il ait fait, où il parle de lui, justement.
C'est Fabelmans.
Oh là là, ouais, j'ai trouvé ça magnifique. Sublimissime.
Même encore aujourd'hui, il fait encore des
Mais j'adore Les Aventuriers de l'Arche Perdue, j'adore Les Dents de la Mer.
Dernière croisade, pour moi, le meilleur Indiana
Jones. Oh, il est fou.
Dernière croisade est parfait.
C'est,
fait divertissement.
C'est démon.
Bon, je sors ma dernière cartouche pour battre Terminator. Terminator ou Blade Runner?
Ah, c'est chaud.
J'ai rien d'autre. Après, je suis à poil. Hein. Voilà.
<C'est>
J'ai plus que ça.
Ah, c'est chaud, c'est chaud. C'est, bah, le truc, c'est que... Je pense que Blade Runner est un chef-d'œuvre. Ce que n'est pas Terminator. Je crois pas que Terminator soit un chef-d'œuvre. Mais je vais quand même choisir Terminator.
Parce que c'est ton choix.
Ouais, et puis parce que c'est vraiment... Je pense que c'est un film que je regarde, allez, une fois par an.
Ok. Ouais. Bon, plus que Blade Runner, du coup.
Ouais, pareil, Blade Runner, j'adore, mais j'ai pas un appétit particulier. Par exemple, la suite m'a complètement emmerdé.
Ah ok, très bien, c'est ton. Moi je l'aime bien, mais pour moi le premier est évidemment intouchable.
Ah ouais.
Je propose qu'on écoute un morceau, on change d'univers avec Doshi, l'une des voix les plus singulières du R&B et du rap américain.
J'adore.
En ce moment, c'est vrai, tu l'as.
Ah j'adore.
Son projet Alligator Bites Never, il est un. Pour moi, sera un futur classique. C'est un peu trop tôt pour le dire, mais je pense qu'il va rester. Et on va s'écouter le morceau Denial Is a River, sûrement le meilleur morceau de cet album.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Doshi?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's been a minute, yeah.
I've been getting some calls.
Oh.
People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so...
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay. Remember old dude from 2019? Nice, clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wife. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turn a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say? The shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned. Whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup bean.
Whoa. Okay, Doshi. We don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay?
All right,
when I breathe, okay. You breathe, alright? Let's go.
Doshi avec Denial Is A River, présent sur l'excellent projet Alligator Bites Never Heal.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Gilles Lelouch, donc tu es là pour Chien 51.
Absolument.
Le film de Cédric Jiménez. Et je voulais qu'on, évidemment, continue à parler de toi, parce que quand même, tu as été nommé au César pour, en tant que scénariste, en tant que réalisateur, en tant qu'acteur.
Ouais.
Qu'est-ce que ça fait parce que, et je pose la question parce que mine de rien, tu sais, tu incarnes un cinéma populaire qui parfois peut ne pas être compatible en tout cas avec les récompenses, avec les honneurs, les faveurs des médias. Et mine de rien, j'ai l'impression de toi que tu arrives à concilier un peu les deux, même si j'imagine qu'il y a des critiques et des moments qui peuvent être compliqués, mais Comment tu vois un peu cette position un peu particulière? Et j'ai presque le sentiment aussi que le fait d'être passé derrière la caméra, est-ce que ça t'a pas donné une autre forme peut-être de respectabilité pour des gens qui peut-être te voient uniquement comme un comédien populaire auparavant?
Ouais, mais après, bon, c'était aussi un peu le cas de ma carrière, quoi. J'ai commencé en faisant des films très légers.
Après, t'as peut-être pas le choix. Quand on est jeune comédien, on travaille.
Exactement. Ouais. Quand ça tombe et on fait avec ce qu'on a, quoi. Ouais. Donc, moi, j'étais pas encore dans un plan de carrière. Fallait que j'apprenne, en fait, ni plus ni moins. Et c'est vrai que le fait de réaliser, notamment le Grand Bain, en fait, a changé beaucoup de choses. Parce que la sélection à Cannes, que j'attendais absolument pas, j'avais jamais mis les pieds à Cannes, donc tout d'un coup...
T'étais jamais allé à Cannes avant ça ?
J'avais été à Cannes pour le film de Claude Miller en clôture, Thérèse Desqueyrou, avec Audrey Tautou, mais autrement, jamais.
Okay.
Donc en fait, et encore moins en réalisateur, là c'est mon premier film, et je vais direct à Cannes, hors compète, je dois t'avouer que j'ai absolument pas compris ce qui m'arrivait. J'ai encore moins compris ce qui m'arrivait quand j'étais en compétition avec la Montrouf.
Ouais.
Alors là, j'imaginais pas la violence que c'était aussi d'être en compétition. Mais dans tous les cas de figure, moi, je n'ai jamais fait les choses en espérant le concours, la palme, le César, le machin. En fait, je crois que c'est un mauvais calcul que de faire les films pour ça. Certains clairement le font pour ces raisons-là. Moi, pas du tout. Et je crois que c'est peut-être en fait cette alliance en fait entre le populaire et le peut-être un peu plus exigeant dans la forme qui fait que j'ai eu accès à Cannes ou à des nominations au César. Mais après c'est formidable, mais c'est pas une fin en soi. Voilà.
Est-ce que ça fait du bien quand même quand on a essuyé les critiques?
Mais ce qui fait du bien en fait, c'est l'adrénaline en fait. Ouais. C'est un espèce de truc, c'est un shoot quoi. On se retrouve au Palais des Festivals, il y a 2800 personnes, c'est une salle immense, mythique. Avant vous, il y avait Scorsese, après vous, il y aura. Non mais vous voyez, c'est moi l'année où j'étais avec La Mourouf, il y avait quand même en compétition avec moi, il y avait Coppola, il y avait Cronenberg, il y a fait un film. C'est juste fou.
Oui, c'est
jamais
absurde. Ouais,
on m'aurait dit ça quand j'avais 12 ans, 15 ans, que j'étais fan de Coppola. On m'aurait dit, un jour, tu seras en compétition face à Coppola. J'aurais dit, allez, ça va pas ou quoi. Donc, en fait, ça, c'est ça que... Je prends la mesure de ça, par exemple.
Ouais.
Et puis, le shoot qu'on a de montrer son film, moi, ce que j'adore avoir peur. J'adore le trac. J'adore quand je me sens vivant, que ça bouillonne et que ça tape. Là, ça tape.
Mmh.
Voilà, là, ça tape pour beaucoup plus que César ou très personnellement, je m'emmerde plus que je ne m'amuse.
Voilà. Tu parlais de violence à Cannes. C'était quoi cette violence? C'était le fait d'être en compétition, les retours de certaines personnes?
Oui, parce qu'en fait, la compétition, et à juste titre, elle réclame, elle nécessite une grande, grande exigence. Et en fait, moi, j'y suis allé un peu naïvement avec mon film de 2h55. Bon, ça fait un peu... Regardez, j'aurais pu être plus exigeant sur le montage, puisque je l'ai été après, pour la sortie de mon film. Mais Cannes m'a permis de remonter mon film, ce qui est une très, très bonne chose. J'ai eu un accueil dithyrambique du public, mais je me suis fait déboîter par la critique. On va dire que j'étais le dernier parmi les premiers, on va dire. Quoi.
Mmh. Est-ce que ça fait douter, ça? Parfois, la critique, est-ce que la critique, elle peut... Et je me souviens, moi, des critiques, notamment, c'était pas toi le réalisateur, mais tu faisais partie de l'équipe des Petits Mouchoirs à l'époque, ou de Bac Nord, de Cédric Jiménez, qui a aussi des critiques violentes, ou de L'Amour Ouf, qui pourtant était un succès. Est-ce que ça peut faire douter? Est-ce qu'on peut se dire, putain, peut-être qu'ils ont raison, en fait?
Ah, moi, il y a des critiques, en fait, on sait quand même relativement faire la part de du délit de faciès, vraiment du critique qui peut pas vous blairer, qui a décidé de façon systématique de vous déboîter. J'en ai deux, trois, moi, qui traînent comme ça, qui font un malin plaisir de me déboîter dès que je fais un truc bon ou mauvais. Hein. On sait quand on fait de la merde, on sait quand on fait quelque chose de qualitatif aussi.
Ouais, ouais.
Après, la critique, moi, je l'écoute, en fait. Je la méprise pas du tout. Je la lis avec attention. Les bonnes critiques, en fait, au mieux, ça vient flatter un truc que vous vous étiez déjà imaginé. Et les mauvaises, quand elles touchent quelque chose de juste, vous le ressentez. Vous dites, putain, il a raison, c'est vrai. Donc c'est constructif.
Tu viens de dire, on sait qu'on fait des trucs bien, on sait quand on fait de la merde. Je ne vais pas te demander de me donner des films, mais est-ce que parfois, il y a des films qui sortent et tu te dis, bon là je le défends, mais j'y crois pas. Ah oui. Là, oui. je sais que je suis en train de défendre une merde. Ça t'est déjà arrivé ça?
Une merde. Bah oui, ça m'est arrivé au début de ma carrière parce que j'avais pas trop le choix, quoi.
Ouais.
Mais j'ai fait des films au début de ma carrière. C'est au-delà de la merde. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est même, j'ai fait des films qui restent une vanne pour mes potes à vie.
Mais là, t'avais pas le choix. Est-ce que c'est, ça t'est arrivé peut-être de te tromper. Maintenant que tu, j'imagine que tu as le choix, on peut te proposer des films. Est-ce que tu as eu des regrets sur...
Oui.
Et c'est assez normal, hein. Mais
oui, après, oui, mais parce qu'en fait, oui, il y a des choses, il y a des choses que je referais pas. Il y a des, mais après, il y a aussi, enfin, c'est très compliqué de faire un film.
Mmh.
C'est tellement dur. On a tellement plus de raisons de le rater que de le réussir. C'est donc parfois on s'imagine un film en lisant un script. Et puis c'est pas l'univers du réalisateur, ou alors c'est pas exactement le produit fini qu'on imaginait, ou c'est pas le montage, ou c'est pas la musique, ou alors c'est pas votre goût. C'est, il y a pas mal de trucs qui rentrent en ligne de compte où on peut se dire tiens, moi sur le papier je m'imaginais ça, puis en fait j'ai Navarro, quoi. Donc c'est vous voyez.
Est-ce que t'as déjà regretté d'avoir refusé un rôle? Un film qui finalement que t'as refusé et qui a eu une belle vie par ailleurs, ou qui était juste un bon film?
Il y a deux films que j'aurais dû faire, mais j'étais con sur ce coup-là, vraiment con. C'est Pacifiction et Asbestas.
Ok. Un de tes prochains rôles, ce sera l'interprétation de Jean Moulin, qui est une figure importante de l'histoire de France. Et là, comment on se prépare pour un rôle comme celui-ci?
Alors là, comment on se prépare? En fait, c'est c'est beaucoup de documentation, c'est beaucoup de documentaires, c'est beaucoup de visites au musée Jean Moulin, de lectures sur Jean Moulin, de tout ce qui existe autour de l'univers de Jean Moulin, depuis maintenant un an. Et puis un coach, Daniel Marchaudon, qui m'accompagne sur les rôles que j'estime être les plus complexes et qui demandent le plus de travail, que je vois tous les jours pendant 2 heures pour fouiller les scènes, les à côté des scènes, la psyché, enfin bon, bref. Et puis surtout, c'est une plongée dans l'inconnu, parce que cet homme dont le courage ne cesse de croître et d'augmenter au fur et à mesure des jours, et de la torture, et de son abnégation, et de son sacrifice, quoi, pour son pays, il y a quelque chose qui est quand même un tout petit peu impalpable, en fait. Donc j'essaye de m'imaginer comment il a pu se soustraire à ce monde de barbarie, de torture, de violence, comment il a réussi à rentrer dans sa bulle pour avoir le courage de continuer, ne rien dire, ne pas céder. Voilà, j'ai beaucoup de chance que je fais le film, alors pour le coup, avec un très grand metteur en scène, où je prends de grandes leçons de mise en scène. C'est Laszlo Nemes qui avait fait Le Fils de Saul. Et lui, il rigole pas du tout.
Bon, on est pressé de voir ça, mais tout de suite, c'est l'heure de la question qui tue. Alors, Gilles, on l'a dit, tu es acteur, bien sûr, et réalisateur. Si tu pouvais réaliser le biopic d'une personnalité, ce serait qui?
Raël.
Oh oui, je m'attendais pas à ça. Pourquoi?
Ah, parce que alors, lui, il me fascine.
Ouais.
Il me fascine depuis, il y a une racine à ça, c'est que j'ai grandi du côté de Fontainebleau. Il y avait un marché où ils vendaient le livre de Raël, et il y avait Raël. Je regardais ce type, il devait avoir 11 ans. Je me dis, qu'est-ce que ce timbré? Il avait une sorte d'étoile feuge avec une croix nazie à l'intérieur. Enfin bon.
Oui.
Et puis il vendait ses bouquins. Et du coup, je me suis renseigné, et ce type, quand même, qui voulait faire de la chanson, mais qui chantait mal, réussi à faire de la Formule 1 alors qu'il savait pas piloter, qui au bout d'un moment foire tout, et il part se balader dans un volcan, puis tout d'un coup il y a les Elohim, là, les extraterrestres qui viennent le chercher, qui l'amènent, il décrit les toilettes dans la coupe sur volant, enfin, y a rien qui va, et il réussit quand même à faire une secte avec des milliers de personnes au Canada pendant des années en toute impunité. Il y a du génie dans l'escroquerie, quoi.
Voilà. Par pitié que ce film ait lieu.
Ah ouais,
ah oui, il faut qu'il ait lieu.
Il faut qu'il ait moyen de se marier. Bon,
merci beaucoup, en tout cas, Gilles Louche, d'avoir
merci
été avec nous. Merci beaucoup. Chien 51, donc, de Cédric Jiménez, qui est disponible depuis aujourd'hui dans les salles. Merci à toutes les personnes qui ont réalisé cette émission. Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Gaspard Guy Bourget et Loïs Moreau. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous aurons un invité qui, je suis sûr, fera plaisir à Gilles Louche, car Oxmo Puccino sera là. Voilà. Et pour redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. Merci.